Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM. Eh ben oui, il est 14h. Nous sommes le dernier lundi de mai. C'est la fin de mai à vélo. Bienvenue sur Rayon Libre. Nous sommes en direct sur 93.1 FM. Le vélo à Paris, connaître son histoire, continuer à l'écrire. Mais avant d'aborder ce sujet, Rayon Libre et Cause Commune s'écoutent en streaming, en podcast, via l'appli, en DAB+. Bref, c'est fou. Ne pas nous écouter, il faut vraiment le vouloir. Merci à Olivier Gréco et toutes les bonnes volontés qui font vivre cette radio. Merci évidemment à Abel Guggenheim. Il va venir chroniquer en fin de mission. En fin d'émission, il aura une question pour notre invité. Je crois qu'il est impatient. Merci à Wheels.fr de relayer ces émissions. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci de votre fidélité. Merci de vos messages. Continuez, on fait cette émission pour vous. Et merci aussi, eh bien, évidemment, aux invités qui se succèdent les uns après les autres. Alors oui, on le dit souvent, pour savoir où l'on veut aller, pour tenter d'écrire son avenir, il est indispensable de connaître son passé et son histoire. D'autant que, j'ai l'impression, concernant le vélo, c'est un cycle comme la mode. On n'invente pas grand-chose, on vélorussionne pas grand-chose. Au mieux, on recycle. On a l'impression qu'avant Anne Hidalgo, point de vélo à Paris, s'est oublié un peu vite le rôle de son prédécesseur, Bertrand Delanoë. Il a lancé le Vélib, par exemple. S'est oublié aussi un peu vite son prédécesseur, Jean Tiberi. Mieux partager l'espace public et lutter contre la pollution de l'air en privilégiant le vélo. C'est oublié peut-être aussi l'action de son prédécesseur, un certain Jacques Chirac, qui ouvre les voies de bus au vélo. Était-ce l'idée du siècle? On verra bien. Et avant Jacques Chirac, eh ben, il n'y avait pas de maire à Paris. Est-ce que le vélo n'était pas dans la vie des Parisiens? Saviez-vous, par exemple, que le Parc des Princes était un vélodrome? Avez-vous oublié ces photos de Robert Doisneau d'un Paris sous l'occupation des Parisiens à vélo? Vous pouvez écouter l'épisode 176 de Rayon Libre. Il était consacré à Robert Doisneau, justement. Le 22 avril de cette année, Wheels publiait un état des lieux des pistes cyclables en Europe et en France dans l'entre-deux-guerres. Et donc, quoi de mieux qu'aller voir l'exposition proposée par mon invité du jour pour se souvenir, se rappeler et surtout se projeter sur la place du vélo dans Paris, l'usage du vélo des Parisiens. L'expo est présentée ainsi à vélo, Paris Métropole, 1818-2030. Jetons donc un regard attentif sur l'évolution du vélo et son impact dans la vie des Parisiens, son impact dans l'aménagement urbain. Cette exposition est installée du 1er juin 2024 au 29 septembre 2024 sous la direction de Clément Dussong, docteur en aménagement de l'espace et urbanisme de l'Université Paris-Est. Et ça tombe bien, nous avons Clément Dussong au micro. Comment lui est venue l'idée? Comment il a travaillé? Qu'est-ce qu'il nous propose? Bonjour Clément et bienvenue au micro de Rayon Libre.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous et félicitations pour ce résumé historique de Paris à vélo vraiment de qualité.
Il est très court hein, parce que je crois que vous allez nous apprendre plein de trucs aujourd'hui. Moi je me suis arrêté à Jacques Chirac mais je pense que vous allez jusqu'en 1818. Et justement, pourquoi est-ce que cette exposition elle commence en 1818?
Ah, très 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 bonne question. Bah, en fait c'est assez simple puisque peut-être que les auditeurs le savent et les auditrices le savent déjà, mais l'invention de la draisienne date de 1817, ouais. Donc par Karl von Drey près de la région de Mannheim en Allemagne. Et en fait, dès la fin de l'année, il imagine faire une démonstration mondiale, une première démonstration mondiale. Il hésite en fait entre deux grandes villes qui sont à proximité de chez lui et qui sont des grandes villes internationales, entre Vienne et Paris. Il s'avère qu'il a une difficulté à faire passer son brevet en Autriche. Du coup, il se rabat sur la France sur laquelle le brevet passe et du coup, il se dit c'est à Paris qu'il faut faire une démonstration pour essayer de donner une ampleur mondiale à mon objet. Du coup, le 5 avril 1818, première démonstration mondiale de draisienne dans les jardins du Luxembourg, alors qu'ils sont encore très loin des jardins actuels. Et donc, première démonstration. Donc au final, quoi de mieux que la première démonstration mondiale à Paris pour faire débuter cette histoire?
C'était et à l'époque, pas de réseaux sociaux.
Pas de réseaux sociaux, mais beaucoup de Parisiens. Donc ça sera encore une fois expliqué un peu dans l'expo que j'espère vous irez voir. Mais après, on estime entre 3 et 4 000 personnes, 3 et 4 000 Parisiens qui viennent voir cette démonstration du coup le 5 avril. Et donc ça fait pas mal de monde, des gens qui payent, hein. C'est payant, et donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on a l'estimation du nombre de publics, parce qu'on connaît les recettes, on connaît les tarifs, ouais. Donc en fait on est capable de faire une estimation à la louche.
Une division, mais alors justement, est-ce qu'on est capable aussi d'identifier qui sont ces Parisiens et qui viennent assister à cet événement, la présentation d'une Dresienne?
Eh ben, très bonne question.
Je suis sur une bonne voie.
Je sais pas si on a la réponse. En tout cas, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de familles, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. On sait parce qu'il y a notamment des tarifs spécifiques pour ces différentes catégories. Oui. Et surtout, après la démonstration, donc le lendemain, la presse dit que les enfants qui s'amusaient autour des démonstrateurs de Dresienne allaient plus vite que les conducteurs eux-mêmes. Ce qui est du coup une bonne manière de critiquer l'innovation et de dire qu'en fait, si même un enfant va plus vite que la Dresienne en marche, cet objet n'a vraiment aucun avenir. Ouais. Et donc, on peut savoir, voilà, comme ça, qu'il y avait des enfants et qu'il y avait un peu du public de tout âge. Mais en tout cas, on se moque, hein, le lendemain. C'est vraiment un objet de moquerie.
On retrouve dans la presse des articles disant ce truc, c'est vraiment nul.
Ce truc, c'est vraiment nul. Et aussi, pour revenir sur la question du public, on se moque aussi du public qui est très crédule. On se dit, mais en fait, les 3-4 000 personnes qui sont venues, qui ont payé pour voir une invention qui n'aura vraiment aucun succès, vraiment les Parisiens sont vraiment des poires. Et c'est ça le sujet aussi de la presse du lendemain, à tel point qu'on a des pièces de théâtre qui vont suivre, des chansons qui vont se moquer de l'objet. Donc c'est pas les réseaux sociaux, mais voilà, il y a plein aussi d'œuvres et d'artistes qui vont se saisir de cet événement, comme sûrement plein d'autres de l'époque, pour un peu se tourner en dérision.
Un Dresienne bashing.
Tout à fait, j'avais envie de dire day one, mais non, mais dès tout, donc dès le lendemain, dès le 6 avril 1818.
Et ça, c'est des informations et des documents que vous allez retrouver dans l'organisation et le travail que vous avez fait pour organiser cette exposition que vous faites?
Et ben, en fait, il y a beaucoup de recherches, quand même, j'ai envie de dire, qui ont été faites sur l'histoire du vélo. C'est des histoires et des travaux qui sont assez segmenté. Donc il y a beaucoup de gens typiquement qui sont intéressés à la question de l'innovation technique au 19e siècle, aux créations justement de la Dresienne et aux suites des multiples innovations qui ont fait qu'on est arrivé au vélo moderne dans les années 1880. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont bossé là-dessus, et donc là ce que je dis c'est des recherches qui sont pas les miennes. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai tenté faire en tout cas avec l'expo, c'est d'essayer justement de tirer le fil entre ces différentes époques, parce que voilà, 19e siècle, après l'entre-deux guerre, tu en as parlé tout à l'heure, la question de l'occupation, la question des années 70 avec l'apparition du militantisme vélo en lien avec
l'écologie. Là, on est déjà
politique.
Au 20e siècle, 1970.
Oui, 1970, ouais. Mais du coup, voilà, de tirer le fil entre ces époques, c'est plutôt ça, entre guillemets, qui, je pense, a été peu fait, ou en tout cas pas fait encore aujourd'hui. Ouais. Mais il y a des recherches sur différentes thématiques, différentes époques, qui sont liées aussi aux champs de recherche et aux intérêts de chacun chacune sur le vélo et sur la pratique.
Et alors, moi, c'est en préparant un peu l'émission, hein, je me suis projeté dans qu'est-ce qui s'est passé en 1900. J'avoue, entre 1818 et 1900, alors soit mes recherches n'étaient pas très bonnes, soit j'ai pas su chercher au bon endroit, mais c'est vrai qu'en 1900, on peut lire sur un site d'attelage patrimoine, donc c'est l'attelage des chevaux, hein. En 1900, on peut dire qu'il n'y a pas de voiture thermique, mais il y a des chevaux, beaucoup de chevaux. 80 000 chevaux envahissent les rues de Paris. Le vélo, est-ce qu'il remplace les équidés dans ces années-là?
Bon, en tout cas, c'est le souhait des promoteurs du vélo, c'est vraiment le souhait des premiers défenseurs, donc dans les années 1890 notamment, après justement qu'on ait cette stabilisation du vélo moderne, ouais. Avec le cadre comme on le connaît actuellement, les pédales, la transmission, ouais. Voilà tout ce qu'on a à peu près sur un vélo classique. Et donc on a cette volonté d'essayer de remplacer le cheval pour différentes raisons. Déjà pour une question de démocratisation de l'usage, parce que le cheval c'est pas accessible à tout le monde, mais ouais. Aussi il y a énormément de pollution et de contraintes liées au cheval, donc le fait qu'il faut aller nourrir, notamment en ville, que ça génère énormément de crottin.
Ouais.
Voilà, d'où l'expression d'ailleurs tombereau de merde, hein, qui est, ouais. Voilà, à Paris, toute la journée, il y avait des personnes qui étaient en charge de récupérer justement la merde des chevaux, qui n'était pas totalement inutile parce qu'elle servait pour le maraîchage, et ouais. Ce qui permettait à la banlieue parisienne d'être extrêmement productive en fruits et légumes. Mais en tout cas, on a cette volonté de remplacer le cheval, et aussi cette question de nuisance qui est déjà présente, évidemment. On n'a pas inventé les nuisances avec l'automobile. cette question de cohabitation aussi avec le cheval, mais aussi les tramways, oui. Les piétons. Il y a déjà plein de sujets de cohabitation hein, qui se posent. Voilà, dès les années 1890, on a des manifestations de cyclistes qui demandent de la place sur la chaussée parce que les conducteurs de fiacres, les cochers, les laissent pas tranquille.
Ouais, donc et là on revient à Jacques Chirac et le partage de la voie de bus.
Et oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce rapport entre, on va dire, conducteur professionnel, conducteur de fiacre, de cocher, puis conducteur de tramway, puis conducteur de bus, en fait, c'est une histoire qui a plus de 100 ans, bien sûr. Et même ce qui est intéressant, tu vois, pour boucler sur la période suivante, c'est que juste avant la guerre, les vélos commencent à perdre leur place sur l'espace public. Ouais. Les conducteurs de bus commencent à leur faire des crasses, parce que les bus parisiens arrivent dans les années 1930. Et au moment de la guerre, plus de bus, tous les bus, le réseau de bus est démantelé. Et je suis tombé, pareil, encore une fois, sur des recherches sur la guerre et sur les réseaux de transport en commun pendant la guerre, de textes de la RATP de l'époque, enfin, ça s'appelle pas encore RATP, qui dit à ces conducteurs de bus, bah voilà, maintenant, il va falloir essayer de bien traiter les vélos et les cyclistes parce que maintenant, bah, on a un peu perdu la place à tel point que du coup les conducteurs de bus vont être réquisitionnés pour faire du gardiennage de vélos parce que les stations de bus ne servent plus à rien, il n'y a plus de réseau, mais on a des énormes espaces vides dans la capitale et donc on va investir ces espaces pour en faire des espaces gardiennés, payants et gardés par les conducteurs de bus au chômage.
Vous êtes en train de me dire que la solution sur nos parkings vélos en 2030, on la trouve, elle est devant nous?
Et ben en fait c'est ça ce que vous avez pu dire, désolé Jérôme, sur la question de on réinvente la roue, c'est tout à fait ça. En fait c'est assez impressionnant, moi je trouve, en faisant ce travail là et en allant voir, j'espère cette expo vous pourrez ressentir ça, mais de se dire qu'en fait on innove très très peu ou vraiment à la marge, on hybride des façons de faire qui ont déjà existé. Mais voilà, sur des questions de parking, sur des questions de cohabitation, sur des questions de conflit d'usage, de critique de la pratique, on a déjà tout ça dans ces deux siècles, vraiment tout ça.
Et alors ce qui est intéressant, ou en tout cas une des questions que j'avais envie de vous poser, vous commencez un peu à y répondre, mais quand on se pose sur une exposition à vélo, sur l'histoire du vélo de 1818 à nos jours, et qu'on colle un truc qui s'appelle Paris Métropole, comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre l'histoire du vélo, parce que finalement la Drésienne, ce n'est pas que parisien, même si ce que vous expliquez, ça a été lancé à Paris, et comment est-ce que vous arrivez à mettre votre curseur entre, bah tiens, ça c'est l'histoire du vélo, et ça c'est une histoire du vélo à Paris, comment est-ce que vous arrivez à placer vos curseurs là-dessus?
Alors déjà, pour la petite anecdote, au début, les Drésiennes sont surnommées Drésiennes parisiennes. Donc vraiment, la Drésienne, c'est vu comme quelque chose de spécifiquement parisien, justement à cause de cette première démonstration, et sûrement que la rime entre Drésienne et parisienne doit bien aider. Alors après, c'est intéressant, c'est que de se dire aussi que l'économie et la structuration de la région Île-de-France et de l'agglomération, elle a toujours été... En tout cas, d'un point de vue notamment des transports, Paris existe avec sa banlieue et inversement, donc il y a plein de choses qui sont tout à fait liées. Et alors, c'est sûr que Paris donne aussi beaucoup le rythme sur ce qui va se passer au niveau national, mais après, il y a quand même des spécificités qui sont parisiennes du fait de la taille de la ville, de l'agglomération, des problématiques typiquement en cas de conflit, en cas d'occupation, les contraintes qui sont appliquées au déplacement des Parisiens, ils sont beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Et typiquement, par exemple, pendant la guerre, les plaques d'immatriculation seront obligatoires dans le département de la Seine, donc équivalent Paris et proche banlieue, ce qui ne sera pas le cas ailleurs, ou alors vraiment à la marge. Donc il y a aussi plein de choses qui sont vraies à Paris, qui sont vraies ailleurs, en tout cas qui se démocratisent, mais aussi beaucoup de choses qui sont quand même très spécifiques au fait que ce soit une agglomération avec une taille et une densité de déplacement qui est tellement énorme.
Qui est très différente des autres villes de France. Merci beaucoup Clément, il est déjà 14h13, donc c'est l'heure de l'agenda de Rayon Libre, donc vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM et on est toujours en compagnie de Clément Dussong, Clément qui vient nous présenter une exposition qu'il porte et qui sera visible au pavillon de l'Arsenal à partir du 1er juin. Quoi faire, que voir, que lire, où aller, comment y aller cette semaine? Et déjà il y a la Nuit Blanche, c'est la 23e édition, c'est ce 1er juin, et je vous dirais allez-y à Vélib, parce que Vélib Métropole rend le service gratuit toute la nuit du 1er juin 2024. Ok, mais pour aller où? Par exemple, aller au pavillon de l'Arsenal. Vous pouvez aussi aller à l'écomusée d'Orly, ça roule, petites histoires du vélo en banlieue sud, c'est à la ferme de Cotainville, 41 rue Maurice Ténine, 94-260 à Fresnes. Mon petit doigt me dit que c'est Clément Dussong, il n'y est pas pour rien. Et enfin, 1er juin, toute la journée, c'est le festival Iagora à la Maison de la Conversation Paris 18. Jean-Philippe Clément, qui a une émission ici qui s'appelle Parlez-moi IA, recevait il y a y a quelques jours l'organisatrice Karine Sitte, l'épisode 31. Je vous invite à l'écouter. Et puis avant de redonner la parole à Clément, on va s'écouter Back on 74 de Jungle et on se retrouve après pour la deuxième partie de Rayon Libre, toujours en compagnie de Clément Dussong. On se retrouve dans 3 minutes.
Cause commune, la voix des communs.
Je vais reprendre la parole sur cette pause de la musique. Très bien, nous sommes toujours sur Rayon Libre, toujours Cause Commune 93.1 FM. C'est la deuxième partie de Rayon Libre avec Clément Dussong, docteur en aménagement de l'espace et urbanisme de l'Université Paris-Est. Il est commissaire de cette exposition au pavillon de l'Arsenal qui débute le 1er juin à vélo Paris Métropole 1818-2030. Clément, on est en 2024. Clément Beaune, un autre Clément, quand il était ministre des Transports, nous avait promis des Jeux Olympiques 100% cyclables. Alors, pas certain qu'on y soit, pas certain qu'on y sera. Paris est néanmoins montré du doigt comme un exemple de la transformation d'une ville en très peu de temps pour la rendre cyclable. Alors, Anne Hidalgo l'annonçait, elle aussi avec une formule un peu bizarre à mon goût, un Paris 100% cyclable. Je crois que Madame Hidalgo, elle est peut-être en phase de réussir à transformer Paris par le vélo. Elle a probablement échoué à transformer les Parisiens en cyclistes respectés et respectables. En même temps, elle est notre mère, elle n'est pas notre maman. Clément Dussong, revenons à votre proposition d'exposition. Comment rassembler 212 ans d'histoire du vélo en une seule exposition ?
Ben, tâche compliquée. non, c'est compliqué évidemment parce qu'en fait, on se rend compte que au sein de ces différentes périodes, de ces époques, de ces décennies qui se sont suivies entre 1818 et aujourd'hui, en fait, le vélo a eu des valeurs, des représentations, des usages, des façons de faire, des façons de voir qui sont très très différentes, ouais. Et voire, j'ai envie de dire, même jusqu'à devenir opposées. Enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'étymologie même du mot vélo, on le sait, hein, ça fait référence à la vitesse, oui. Le véloce, ouais. Et aujourd'hui, le vélo devient un mode lent,
ouais.
Donc ce qui est quand même assez singulier. Le vélo est un des produits de l'industrialisation, de la de l'industrialisation des moyens de production qui a débouché sur le vélo, sur la baisse de ses coûts et ce qui a permis au vélo d'être accessible. Là où aujourd'hui le vélo est vu comme quelque chose proche de la nature et presque l'inverse entre guillemets de l'industrie et de la technique. Donc forcément les représentations et les usages, sans parler évidemment du fait que au début le vélo c'est une pratique très bourgeoise, puis c'est devenu populaire, puis aujourd'hui on sait même plus trop où ça en est. Et donc ce qui est vraiment très délicat. Donc en fait vraiment voilà, pour raconter cette histoire, il faut je pense se permettre d'aller chercher un peu partout. J'ai pas parlé encore de l'industrie, de la production, des réparateurs, de la logistique, etc. Donc en fait il faut aller chercher un peu partout pour essayer je pense de se rendre compte de qu'est-ce qu'est le vélo à une période, qu'est-ce que le vélo aujourd'hui. D'ailleurs c'est aussi une question qui est très difficile à répondre.
Oui, et c'est marrant, c'est intéressant parce que vous parlez notamment de la logistique. Encore une fois, on n'invente pas grand-chose. Les porteurs, les livreurs de journaux à vélo, à l'époque, ils faisaient de la cyclologistique sans le savoir.
Ah bah oui, bon, ils le savaient bien, hein, ils le savaient dans leur mollet, hein, parce qu'il faut évidemment se dire qu'ils n'avaient pas d'assistance électrique, ça c'est une évidence, que les premiers n'avaient pas de dérailleurs, que le confort des vélos n'était pas le même, et puis le confort de la route, enfin on oublie aussi, mais enfin ce qui fait qu'un système de transport fonctionne, notamment un système roulant, c'est le véhicule, l'usager, mais aussi la route et le réseau. En vélo, on parle aujourd'hui beaucoup des questions des aménagements en faveur du vélo, mais il y a aussi la question de la qualité du revêtement. Et au début du siècle, même fin du 19e siècle, la question primordiale des cyclistes, c'est le développement d'un revêtement lisse, confortable, qui permet d'aller partout. Aujourd'hui, on a tellement de routes. En tout cas, nous, en France, on a de la chance d'avoir un réseau routier, certes, qui est pris beaucoup par l'usage automobile, mais en tout cas un réseau routier qui va partout, de qualité quand même relativement satisfaisante. À une époque, c'était évidemment pas le cas.
Et alors justement, quand votre exposition, elle parle de vélo, moi j'avais envie de faire un peu un pas de côté, pas parler du vélo, mais de parler des cyclistes dans les années 1818 ou même 1900 ou même 1950. Qui sont ces gens qui pédalent?
Et ben encore une fois, voilà, c'est passé par ça a traversé plein de classes sociales, plein d'univers. En 1818, hein, c'est des sportifs, hein, des sportifs presque, j'ai envie de dire, de haut niveau, presque professionnels, qui vont en faire au début, qui vont faire des démonstrations. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Puis après, il y a la question de la démocratisation de l'usage et de l'apprentissage de l'équilibre. Enfin, on s'imagine qu'aujourd'hui, on a encore évidemment, bien sûr, des adultes en France qui ne savent pas faire de vélo. Faut penser qu'à l'époque, personne ne sait tenir en équilibre. Et surtout, c'est nouveau, donc c'est presque magique. Cette question d'équilibre, donc vraiment un public très sportif, plutôt bourgeois. Et puis après, cette démocratisation. Puis après, les pratiques s'hybrident aussi, parce qu'on va avoir aussi des classes bourgeoises qui vont défendre encore un cyclotourisme pur et dur qui va rester proche du vélo. Là où beaucoup de cyclotouristes vont s'intéresser à la voiture dans les années 1910-1920. Puis après, voilà, en tout cas dans Paris notamment et dans sa banlieue, un usage très très populaire. Voilà, dont on peut penser au cinéma notamment des années 30, avec un vélo très populaire. Puis la guerre. Puis la guerre, c'est vraiment un moment où tout le monde fait du vélo parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc on a vraiment un moment de démocratisation où le vélo traverse toute la société dans toutes ses classes et dans tous ses besoins, c'est-à-dire du déplacement, du ravitaillement, de la logistique, la résistance évidemment, enfin voilà, on a tout ça. Et puis après, donc vraiment on traverse, le profil de cycliste est toujours très varié, et surtout quand on prend deux siècles d'histoire, on a vraiment tout les types d'usagers qui a pu se mettre en selle.
Et alors quand on fait une exposition comme celle-là qui donne la place ou qui essaye de rassembler ou de réunir ou de nous poser l'histoire du vélo à Paris, est-ce que à partir du moment où il y a la voiture qui arrive dans nos rues et dans notre ville qui s'appelle Paris, est-ce que la place du vélo, elle est intimement liée à la place de la voiture à Paris et dans sa métropole?
Et eh ben alors déjà, c'est intéressant, c'est la question du choix de vocabulaire que vous avez pu faire, Jérôme. Vous avez dit voiture, mais pendant longtemps, voiture ne veut pas dire automobile, veut dire voiture à cheval. Et donc un des premiers obstacles et concurrents aux cyclistes, c'est la voiture hippomobile, et qui est déjà là dans les années 1870, 1880, 1890. Donc c'est le vélo qui est un nouveau venu, qui essaye de se faire une place, et les enjeux de conflit avec les voitures hippomobiles et les cochers sont énormes et très importants. Et donc les associations de cyclistes de l'époque essayent de se défendre pour avoir une place vis-à-vis de ces cochers-là qui sont en train de perdre leur propre clientèle. Parce que si on a un usage vélo bourgeois, et ben en fait les conducteurs de fiacres, c'est leur clientèle qui sont en train de perdre. Et donc après la voiture, donc on devrait dire automobile pour éviter les problèmes de compréhension qui arrivent dans les années 1910, 1920, 1930. Mais en fait, la démocratisation de la voiture se fait d'abord, comme souvent dans le centre des grandes villes, là où il y a les gens qui ont les moyens de ce nouveau véhicule. La voiture commence à prendre une place importante, notamment à Paris, Mais en fait, la guerre arrive vraiment comme un couperet net dans la démocratisation de l'automobile, à tel point que les véhicules vont être utilisés pour l'exode, vont être réquisitionnés déjà par l'armée française, puis évidemment après contrôlés par l'occupant dans les déplacements. Et donc en fait, après-guerre, on repart un peu de zéro en fait, en termes de pénétration de l'automobile dans la vie des gens et notamment dans les villes. Mais donc ça va être après une vague extrêmement rapide, ce qui fait que déjà milieu des années 50, les cyclistes sont déjà plus dans l'espace parisien. En tout cas, ils sont vraiment expulsés très rapidement.
Alors, il est 14h24, on va lancer la chronique d'Abel Guggenheim. Je voulais faire un peu de prospective avec vous, 2030, et est-ce que le vélo est aussi intimement lié aux décisions politiques et aux maires qu'on a dans nos villes? Mais on va garder cette question en suspens. On va écouter Abel Guggenheim. Abel, il est très impatient de vous poser une question et de venir s'exprimer au micro de Rayon Libre pour cette semaine. Donc on écoute Abel, et puis je crois qu'il a une question pour vous, et je crois qu'il est très impatient d'assister à cette exposition. Abel Guggenheim, c'est à toi.
Oui, Jérôme, je suis impatient de découvrir cette exposition car je suis une des nombreuses personnes que Clément a rencontrées pour la préparer. Comme ça a commencé du temps de la Covid, nous avions pris l'habitude de nous rencontrer en visio le dimanche matin. Il m'interrogeait d'abord en tant que cycliste régulier à Paris depuis 1962 et me demandait de comparer les différentes époques, mais aussi comme participant aux grandes manifs à vélo des années 70, puis comme militant actif du retour progressif du vélo à Paris depuis 1996. Je lui ai indiqué d'autres acteurs y étant aussi participés, citoyens, militants, institutionnels, qu'il a contactés et souvent rencontrés. Je lui ai aussi donné accès à diverses ressources, papiers, vidéos, photos, cartes, susceptibles d'enrichir son travail historique, soit en les lui prêtant lorsque je les possédais, soit en lui indiquant où il pouvait les trouver. Je ne suis bien sûr pas le seul à l'avoir fait. D'autres aussi, dont les personnes dont je lui avais donné les noms, mais aussi bien d'autres. Et puis il a fait œuvre d'historien en croisant les sources, en comparant les témoignages. Je n'ai aucune idée de ce qu'il en ressortira dans quelques jours maintenant, d'où mon impatience bientôt satisfaite. La recherche historique est une discipline qui réclame travail et rigueur. Clément m'avait écrit qu'il avait été intéressé par un article que j'avais écrit en 2016 dans le magazine suisse Cycle, intitulé « Le retour de la bicyclette à Paris à la fin du XXe siècle ». J'y rappelais deux erreurs historiques longtemps colportées, l'invention d'un ancêtre français de la Drésienne, le soi-disant célérifère, et l'oubli du rôle décisif de Jean Tibéri dans la réintroduction du vélo à Paris à partir de 1996. Mais on n'est jamais à l'abri de ce genre d'erreur, volontaire ou non, qu'on nomme aujourd'hui « fake news ». J'ai ainsi récemment entendu une personne attribuer faussement la création de la première vélo-école française. J'ai rapidement pu vérifier sur des documents écrits que mes souvenirs étaient conformes à la réalité et que cette création était bien le fait du MDB en 1996, plusieurs années avant les autres. À la fin de Rayon Libre, après ma chronique, Jérôme pose une dernière question à son ou ses invités. Il m'accordera aujourd'hui la faveur de poser moi-même cette dernière question à Clément Dusson. J'aimerais en effet savoir s'il envisage qu'il y ait une suite sous forme permanente à cette exposition, et si oui, comment? Je le tiens depuis longtemps pour indispensable et je le lui ai dit. Qui pourrait prendre une telle initiative? La Pure, le pavillon de l'Arsenal, l'université, le milieu associatif à la Maison du Vélo, ou même une entité créée à cet effet? Merci d'avance à Clément pour sa réponse.
Cause commune,
la voix des communs.
Et oui Clément, il y a une question qui amène une réponse de la part d'Abel Guggenheim.
Alors oui, c'est vrai que moi, mon projet, ma volonté en initiant l'expo, c'est évidemment de rendre visible une histoire du vélo à Paris qui, comme l'a dit Abel, hein, peut des fois être raccourci, ou des fois on peut faire des oublis, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc et sûrement que moi-même j'en fais évidemment. Donc c'est d'essayer de rappeler une certaine histoire, essayer de la démocratiser, de la diffuser, et aussi que les gens puissent se la réapproprier. Et après, quel est l'avenir de cette thématique après l'expo? Déjà, je n'ai pas le monopole du sujet. Ouais. N'importe qui souhaite s'intéresser à la thématique peut explorer. Il y a plein de champs, je pense, à explorer. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire peut-être de d'initier ou donner envie à certaines personnes d'explorer des sujets dans des travaux historiques ou autres sur la thématique du vélo et de Paris. Bah moi, j'aimerais bien évidemment avoir un interlocuteur, avoir un intérêt d'une institution pour essayer notamment la question des archives. Il y a évidemment la question vulgarisation, mais aussi des archives. Abel parle de documents. Il y a aujourd'hui beaucoup d'archives associatives. Alors c'est le cas pour plein d'autres sujets, hein, pas que le vélo, mais d'archives associatives qu'on n'est pas capable de valoriser, de les mettre accessibles pour les chercheurs, pour les étudiants qui souhaitent faire des mémoires, des travaux dessus. Donc je pense que moi, je vais continuer à essayer de porter ce sujet-là et cette thématique pour qu'elle soit le plus visible et puis qu'elle puisse se diffuser ailleurs qu'au pavillon de l'Arsenal. Mais en tout cas, je suis pas sûr que le pavillon soit le bon endroit pour continuer après cette expo-là.
Et bien, il faut qu'elle tourne à New York et à Bogota et à Amsterdam peut-être.
Pourquoi pas, c'est vrai que Paris, ça intéresse à l'international. Paris et le vélo intéressent à l'international. Aujourd'hui, on en est sûr.
Merci beaucoup Clément, c'était Rayon Libre. Merci Clément Dusson, auditeur, auditrice. Vous pouvez enfourcher votre vélo. N'oubliez pas d'aller pédaler. Une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et moi, je dirais, assurez-vous d'aller au pavillon de l'Arsenal à partir du 1er juin. On se retrouve la semaine prochaine. On ira dans le Lot. Je me demande s'il y a la 5G dans le Lot. On verra.
Rayon Libre.